Bien, j'ai salué déjà beaucoup de gens que je recevais tout à l'heure, des personnes que je n'avais pas vues. Bonjour à tous, merci de votre présence, ça me fait plaisir. Et donc, je vais vous parler des temples de Grenoble. Vous savez qu'il n'y a pas de secret, nous avons la rue du Vieux Temple, donc il y avait un temple, la place du Temple, il y avait un temple, n'est-ce pas? Et quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert qu'il y avait quand même d'autres temples. Et ces temples-là ont tous leur histoire. Donc, je vais essayer de partager ça avec vous cet après-midi, si vous voulez bien. Dès 1524, les protestants du Dauphiné marquent de leur empreinte la vie religieuse et sociale de la province. Les idées de Luther et de Calvin y trouvent une terre favorable. Le 4 décembre 1563, le maréchal Vieilleville fait son entrée dans la ville pour faire appliquer au nom de Catherine de Médicis, alors régent de son fils Charles IX, l'édit de pacification. Il convoque à ce moment-là toute la population en leur demandant de s'entre-pardonner entre eux de tous les problèmes qu'il y a eu. Il concède à ce moment-là, comme premier temple, une église catholique, le couvent Sainte-Claire. Alors à ce moment-là, il demande au couvent des Cordeliers de mettre à disposition de l'église des Cordeliers pour le culte des protestants. Et par la suite, c'est le couvent Sainte-Claire qui prend la relève et ce qu'on appelait à l'époque le temple Sainte-Claire. Le commencement d'année 1564 est employé à la réorganisation du culte protestant. Les réformés doivent rendre l'église Sainte-Claire aux religieuses. Ils demandent alors au conseil consulaire le réfectoire du couvent des Cordeliers, qui leur était refusé. En effet, il servait au cours d'université, le couvent des Cordeliers qui se trouvait à l'emplacement du musée de peinture actuel. Il leur est alors proposé l'hôpital Saint-Jacques, que des protestants jugent de taille insuffisante. Le capitaine châtelain de la ville, Annemont Coq, leur attribue la même année un emplacement rue Pailleret. Alors la rue Pailleret, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, c'est une partie de la rue Lafayette, entre la rue des Clercs et la rue Jean-Jacques Rousseau, cette partie-là. Et c'était à cette époque-là où logeaient les muletiers pour bâtir un temple. On peut donc dire que le premier temple officiel de Grenoble, je ne tiens pas compte des chapelles qui ont été mises à disposition, mais le premier temple officiel date de 1564. À partir de cette époque, les défunts protestants sont enterrés dans le cimetière de Notre-Dame et Saint-Laurent, en attendant un choix de nouvel emplacement. L'usage de ce temple fut de courte durée, puisque dès 1568, date la Troisième Guerre de Religion, il fut transformé en dépôt d'arquebuses. Le 20 décembre 1590, Lesdiguières entre dans Grenoble après un siège de plusieurs jours. Il s'empare de la maison de la ville ainsi que du couvent des Cordeliers, dont il fait une citadelle et un arsenal. L'exercice de la religion protestante est alors de nouveau autorisé, officiellement par des articles de la capitulation qui stipulent « pourra toutefois l'exercice libre de la dite religion » être faite et célébrée publiquement dans le faubourg Trois-Cloîtres, donc la rue Trois-Cloîtres, hein, sans que ceux de ladite religion y soient troublés ni molestés. La capitulation étant confirmée par leur patente, les protestants commencent immédiatement la construction de leur nouveau temple dans un endroit du faubourg. Pendant les travaux, réintègrent des chapelles du couvent des Cordeliers pour leur culte, chapelle cédée par Lesdiguières. Ce nouveau temple est achevé en 1592, au bout de l'actuelle rue du Vieux Temple. Donc c'est au bout de la rue du Vieux Temple qu'avait lieu ce temple. C'était donc notre deuxième temple. À l'époque, dans une ville épiscopale, il était interdit de construire un temple dans l'enceinte de la ville et proche du palais épiscopal et de la cathédrale. C'est vrai que la rue du Vieux-Temple part de l'évêché, enfin, qui est maintenant le musée de l'évêché. Hein. Situé à l'origine à l'extérieur de la ville, ce temple se trouve rapidement à l'intérieur après l'édification de la nouvelle enceinte réalisée par Lesdiguières. C'est-à-dire quand Lesdiguières a fait son enceinte au bout de la rue du Vieux-Temple, d'ailleurs on voit encore des parties, automatiquement notre temple se trouvait dans l'enceinte et non, selon les accords, à l'extérieur de la ville de Grenoble. Ce temple, au-dessus de la porte principale, fut sculpté des armoiries de Lesdiguières. Sur les vitraux sont peints des armes du roi et de la province et de la ville. La voûte est soutenue par un artifice admirable, sans cheville ni clou. C'était un édifice magnifique, dira un jour Monseigneur Le Camus. Les protestants ont joui paisiblement et sans contestation pendant plus de 70 ans. Malheureusement, vers le milieu du XVIIe siècle, les dispositions du gouvernement deviennent plus hostiles envers les religionnaires, ainsi qu'on les nommait à l'époque. Sous prétexte d'infraction aux édits, le clergé catholique s'engage dans tout le pays une campagne active au sujet de l'implantation des temples et de leurs cimetières. À Grenoble, en 1664, le syndic de la ville s'avise de nouveau du fait que le temple se trouve en des murs, du fait de l'agrandissement de la ville sous Lesdiguières, ce que je disais tout à l'heure. Alors que l'édit de capitulation de 1590 stipule qu'il doit se trouver hors des murs. En conséquence, le syndic présente une requête pour demander purement et simplement la démolition de l'édifice. L'affaire est portée devant le conseil où elle est oubliée. Bonne chose. Elle est enfin jugée le 1er août 1671 et ordonne la démolition du temple dans un délai de un mois. Permission est donnée aux réformés de bâtir un nouveau temple dans le faubourg Trécloître, mais hors des murs. Dans ce nouvel édifice ne doit pas figurer les armes et la chaire de Sieur Lesdiguières, ni des fleurs de lys, ni des armes de Sa Majesté ou de la ville. À la suite de cette ordonnance, les protestants se mettent en devoir de faire désigner par l'intendant des ponts et chaussées du Parlement, M. Duguay, un autre emplacement hors de la porte Trécloître. En compagnie de syndics catholiques et protestants, et après bien des difficultés de choix se porter sur le pré Vallier, propriété de Madame de la Garenne, l'intendant Duguay fait alors picter une superficie et reprend une ordonnance à cet égard de 13 octobre 1671. Alors, l'on pense que ce fameux pré était, si vous connaissez, enfin, c'est simple, derrière le poste de police de Grenoble, où il y a les bureaux de, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment là-bas. Quand on descend la rue Joseph-Sonbrillon, finalement, c'est derrière la caserne, qui est maintenant vers la Poudrière, ça, je trouvais pas le nom, à peu près vers la Poudrière, je suppose. L'affaire paraissait donc arrangée à la satisfaction mutuelle des deux parties catholiques protestantes. Mais par la suite, il y a de la part du syndic du clergé quelques restrictions. À peine l'ordonnance signifiée, sur l'instigation du clergé, la dame Garenne, donc la propriétaire du terrain, forme opposition au Conseil d'État, annonçant que le choix de sa propriété était contraint aux intentions de Sa Majesté Louis XIV. Étienne Le Camus, je crois que beaucoup de personnes ont entendu parler d'Étienne Le Camus, évêque de Grenoble depuis le 5 janvier 1671, use même, paraît-il, de tout son crédit pour influencer le conseil rapporteur et obtenir un avis contraire sur l'ordonnance. Le début de la manœuvre est évident. Si l'opposition est admise, le choix du pré-Vallier sera rejeté. L'intendant Duguay déjoue ses calculs dans un rapport au Conseil d'État. Il dévoile la mauvaise foi du syndic du clergé. Cette fois, le Conseil fait bonne justice pour arrêter le 30 octobre. Il met à néant l'opposition de la dame Garenne et toute opposition et ordonne que les protestants pourront, comme bon leur semble, faire construire dans le pré Vallier un temple pour y faire l'exercice de leur religion, en payant bien sûr par eux-mêmes le prix dont ils conviendraient avec la propriétaire. Les protestants s'hâtent de s'installer au pré Vallier. Les travaux sont exécutés avec une grande activité. Une tente est installée sous laquelle commencent les exercices religieux, puis un bâtiment en bois en guise de temple. La construction du nouveau temple commence en 1671 et se termine en 1674. Très bien construit, en forme octogonale, couvert d'ardoises, entouré d'une grande cour garnie de plusieurs rangs de tilleuls, fermée par un portail et de hauts murs. Après la démolition de l'ancien temple, l'évêque Le Camus achète vers 1675 l'emplacement pour y faire construire un séminaire, donc au bout de la rue du temple, dont il confie la direction au père de l'oratoire, dont la rue porte le nom. Battu sur ce point par la construction de ce nouveau temple, donc c'était le troisième temple, n'est-ce pas, le clergé continue, en attendant mieux, à rechercher tous les prétextes pour contrer les réformés. Leur cimetière est resté en ville et ils avaient continué à y enterrer leurs morts, ce qui était interdit d'ailleurs. En effet, l'arrêt du 1er août 1671 ne contenait aucune disposition à cet égard. Une enquête est alors déposée au Conseil d'État pour demander le déplacement du cimetière à proximité du nouveau temple. Requête confirmée par un arrêté du 20 septembre 1675. Les choses en restent dans cet état jusqu'en 1681, date à laquelle le syndic du clergé soulève des difficultés du nouveau genre. Il prétend que, par sa situation, ce temple cause des incommodités aux couvents et aux maisons religieuses de la ville près du faubourg Trécloître. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, c'est dommage que je n'ai pas mon ordinateur, j'ai un plan. Et certaines personnes sont intéressées. Un plan ici de tout ce quartier où il y avait donc l'évêché et entouré de nombreux, je crois qu'il y en avait 18, couvents. Bien, il paraît qu'on m'a pas entendu. Oui, je disais donc dans ce quartier de Trécloître, vers la rue du Vieux-Temple, il y avait une quinzaine de couvents, les uns à côté des autres, qui étaient répartis. Et j'ai la liste ici. Enfin, pourquoi je la garde pour moi cette liste que je ne vous dis pas, hein? Mais vous pouvez lire votre plan tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, il y avait les Grands Récollets, la Visitation, Sainte-Cécile, qui est là derrière, les Orphelines, les Pénitents, les Jésuites, les repentis, la propagation de la foi, Sainte-Claire, bon, la cathédrale, l'évêché, bien sûr, le couvent des Minimes, où maintenant il y a Salle Messian, les Ursulines et les Capucins. Donc ça fait quand même beaucoup de monde autour de ce temple. Alors, donc j'en reviens à notre histoire. Je disais donc, ces choses restaient en état jusqu'en 1681, date à laquelle le syndic du clergé soulève les difficultés du nouveau genre. Il prétend que par situation de ce temple cause des incommodités au couvent et aux maisons religieuses de la ville près du faubourg Trécloître. Il obtient sur requête une ordonnance de l'intendant de la province d'Herbigny qui désigne le juge de Grenoble pour recevoir la preuve de ces incommodités. Les protestants forment opposition et envoient en représentation à Paris M. Delapierre pour expliquer leurs moyens de défense au secrétariat d'État Châteauneuf et Croisy. Les prétendues incommodités furent trouvées peu dignes d'attention. Le débiteur reçoit l'assurance qu'il ne serait pas donné suite aux plaintes du syndic. À l'étude, donc, je vais vous parler là de ce plan de 1685, donc c'est le plan que je vous ai parlé, qui cite tous les couvents et, qui étaient autour. Vers la fin de l'année 1684, le syndic du clergé adresse au Conseil d'État une seconde édition de requête de 1681. Le temple, dit-il, par sa proximité des couvents, trouble le service divin et les exercices de dévotion des personnes pieuses. Les prêtres au confessionnal, à l'autel, à la chaire, où lisons leurs prières. En entendant les chants des psaumes des religionnaires, les filles nouvellement converties en sont extrêmement distraites, ayant l'oreille faite par ces chants qu'elles répètent involontairement après eux. Le jour de la persécution était arrivé pour l'Église réformée, précaution due à l'évocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Encouragé par le gouvernement dont les dispositions n'étaient plus un mystère, les évêques avaient organisé dans les diocèses des missions de capucins et de jésuites pour la conversion des hérétiques. Ces conversions étaient douces au cœur de Louis XIV. Promesses, menaces, séductions, tout était mis en œuvre. Le temple de Grenoble reste le seul debout au milieu des ruines, cerné tout autour par d'infatigables ennemis. La trahison s'est glissée dans son sein. Des oratériens, des jésuites, gagnent à eux des gentilshommes, des conseils d'État, des hommes de toute classe de société. Même Alexandre Vigne, un des pasteurs les plus considérés, écrivain, connu de grand savoir, ancien professeur de l'Académie de Die, l'Académie de Die était une académie réputée, qui depuis plus de 20 ans leur prêchait la parole de Dieu, se retire dans le séminaire des prêtres de l'oratoire et abjure dans l'église Notre-Dame entre les mains de l'évêque Le Camus. Ce dernier, dit d'Alexandre Vigne, c'est un homme de mérite, d'une vertu distinguée, irréprochable en son parti. Puis il ajoute « Nous travaillons à faire déconstruire le temple et j'espère qu'avant peu nous viendrons à bout. » Le syndic du clergé du diocèse de Grenoble avait en effet demandé, dès 1681, la démolition du nouveau temple situé rue Prévalier. Par ailleurs, le prince-évêque Le Camus souhaite en 1685 une conversion des religionneurs par la douceur, la patience, la charité, avec des prières publiques mais en français, pas de latin, et de nombreux sermons. En effet, il ne faut pas oublier que les protestants réformés ont une très bonne instruction, mais là, c'est pas comme ça, très bonne instruction pour la lecture des Bibles en famille. Le Camus se refuse d'utiliser la violence, et en particulier celle des dragons, comme il le fit avant lui le lieutenant-général du Dauphiné de Gordes en 1568. Camus opint donc le délogement des troupes du roi et profite de la présence des dragons dans le voisinage pour engager les huguenots à rentrer dans le sein de l'Église par la voie de la douceur, de la persuasion, ce qui lui réussit. Pierre Boll, qui est un historien à qui nous en aurons un hommage sous peu ici, Pierre Boll nous dit dans la biographie d'Étienne Le Camus, le cardinal des montagnes, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce livre, le cardinal des montagnes, malheureusement ne le trouve plus. Avec modération et bon sens, avec patience et charité, mais aussi avec une grande honnêteté, il a cherché à faire entrer dans le religion de l'Église catholique le petit troupeau égaré. Il a surtout su éviter des persécutions brutales et sanglantes qu'ont connues de nombreuses autres régions. Mais Le Camus reconnut quand même en 1699 son échec concernant les nouveaux convertis. À la réserve d'un petit nombre, les autres sont pires qu'ils étaient avant leur avulation. Revenons aux incommodités du temple vis-à-vis des ordres religieux proches. Après l'arrêt du 8 janvier 1685, les deux commissaires Lebré et Arzelier se mettent en devoir d'exécuter les prescriptions de cet arrêté en informant des incommodités après une enquête au moment des champs. Le 6 avril 1685, à 14h, on fit ouvrir les portes du temple et pour éviter le tumulte autour de l'édifice où stationne une compagnie de milices de 100 hommes, tous les curieux de la ville sont rassemblés de ce côté, se poussant, se bousculant, se précipitant dans l'intérieur du temple, et les témoins oculaires évaluèrent la présence de 4 000 à 5 000 personnes. Ça me fait beaucoup, moi, quand j'ai vu ça dans les archives, j'ai eu un peu des doutes. Les uns montant sur les bancs, des dossiers, des chaises, d'autres s'accrochent à toutes les saillies d'architecture, d'autres s'installent sur les rebords des fenêtres. Des religieux et quelques huguenots occupent les bancs. Quand cette cohue est bien installée, un coup de trompette fait faire silence et la scène commence. À Saint-André, de Grenoble, un religieux des Cordeliers, dont les voix sont les plus fortes et les plus éclatantes du royaume, monte dans la chaire, qui est fort élevée, pour exciter le peuple à prier, à plein gosier, à perdre haleine. Il commande à cette assemblée de se tourner du côté des églises, des couvents, où sont les sieurs commissaires. Oh, ils ont monté une chaire comme ça, c'était pas celle-ci à l'époque. Hein. Pendant cette scène bouffonne, le sieur commissaire d'Arzelier transporte successivement dans les couvents les plus voisins et écoute gravement. Il ne fallait pas comparer ces hurlements et ces cris aux chants posés et cadencés qui ont lieu dans le temple où chacun reste assis lors du culte. Le 7 avril 1685, Guy Allard, avocat au Parlement, c'est un historien d'ailleurs, président de l'élection de Grenoble, écrit dans le Mercure Galant. Il se trouve assez de monde dans le temple pour faire connaître par les hymnes et les antiennes et plusieurs prières de l'Église catholique, apostolique et romaine qui furent chantées et qui pouvaient être entendues distinctement dans toutes les églises et monastères qui furent facilement reconnues par le sieur commissaire qui s'y trouvait. Guy Allard écrit « On voit visiblement que Dieu se lasse de leur séparation et qu'il leur tend les bras. Les plus éclairs le reconnaissent, les autres le méprisent, mais leur obstination est si grande qu'ils ne veulent point se faire instruire. Ils publient qu'ils le sont assez, sans considérer que leurs ministres leur ont prêché que leur religion et ne leur ont pas fait avoir la bonté de la nôtre. Ils les ont élevés dans des erreurs qui leur plaisent et leur ont caché la vérité qui les éclairerait. Peut-être que le Saint-Esprit les touchera, qu'ils l'écouteront, sinon nous devons tous prier Dieu pour leur conversion, bénir notre auguste monarque qui s'y emploie avec tant de zèle, louer ses empressements qui témoignent pour cela, demander au ciel le don de la persuasion en faveur de ceux qui travaillent à les instruire, de la persévérance de nos prélats pour achever le grand ouvrage de la Réunion. Ainsi cessa, dans la ville d'exercice public de la religion protestante, après une durée de 95 ans, le 22 octobre 1685, la révocation d'Élie de Nantes par l'Élie de Fontainebleau en fit un crime d'État. Contrairement à l'arrêté du 6 août 1685, le temple n'est pas converti en église, selon le souhait du cardinal de Camus. Il voulait récupérer pour en faire une église, qui est considéré comme l'un des plus beaux temples du royaume. Donc, celui. Le clergé le fait donc démolir jusqu'au fondement dans le courant de l'année, secondé par les élèves jésuites qui déploient une telle furie qui semblait dire par des contemporains catholiques que le diable s'en mêlait. Quant aux fidèles protestants, plus fervents, se bornent à aller la nuit pleurer et prier sur l'urine. Parmi les rares documents qui ont conservé le souvenir de ce temple, je citerai ce sonnet. que j'ai trouvé dans les archives. Édifice autrefois de superbes structures qu'avaient fait l'hérésie et la rébellion, temple des plus fameux de la religion, où longtemps ont régné l'erreur de l'imposture. Tu ne prévoyais pas une telle aventure. Tes pasteurs t'assuraient que toi, Saint Sion, n'étant jamais sujette de corruption, tes murs ne tomberaient qu'avec la nature. Mais où sont ces longs jours dont souvent t'ont flatté, ces ministres zélés contre la vérité? Tout sort perpétuel n'était donc rien qu'un songe. Malgré les pronostics, tes murs sont démolis. Peuple qui le voyait, n'en soyez pas surpris. Daniel sut toujours triompher des mensonges. En 1685 et 1686, le comportement de Hugo de Grenoble. Donc, il n'en put temps. Il se rassemble dans des maisons secrètes, la nuit généralement, à des heures indues. Le jour, il se déplace en petits groupes. Il se regroupe dans certains cabarets connus comme le Trois Colombes du Faubourg Saint-Jacques pour faire leur prière, et se rassembler. Ils font également des assemblées dans l'île de la Porte de Bonne. La Porte de Bonne, tout le monde le sait, c'est au bout de la rue du Bonne. Les dimanches pour les fêtes, dans des endroits couverts de bois, les assemblées sont surveillées par des sentinelles pour ne pas être surprises. Enfin arrive le retour de la liberté religieuse en 1789. Les protestants du Dauphiné se réjouissent d'obtenir de nouveau la liberté de la religieuse. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen donne libre exercice de culte, l'accès à toutes les professions, à toutes les fonctions publiques, à tout citoyen. Ces déclarations et le préambule des constitutions de 1791 et 1795 de toutes celles qui suivront. En 1807, le service religieux de la Pentecôte est rétabli. Il se déroule avec l'autorisation de M. Portali, ministre des Cultures depuis 1804, à l'hôtel de Belmont qui est Créqui. Je crois que tout le monde connaît l'hôtel de Belmont qui est sur les quais, où il y a maintenant des sièges de l'université Interage. Il y a des cours là-bas d'ailleurs. N'ayant plus ni de temple, ni de logement pour les pasteurs, les protestants participent à l'office, soit dans la salle du jeu de paume, la salle du jeu de paume était dans le jardin de ville, ou alors dans la chapelle de la citadelle, à l'emplacement de l'actuel musée de peinture, soit dans l'orangerie du jardin de ville. Excusez-moi. En avril 1820, un jeune pasteur de 23 ans, César Boniface, arrive dans la paroisse. Il est restreint jusqu'en 1844. Pendant cette période, la communauté loue l'église des Capucins, rue Servan, donc place du Vieux Temple. Actuellement, c'était donc le quatrième temple. Il y avait dans rue du Vieux Temple, il y avait rue Lafayette, il y avait là derrière donc, dans le terrain de cette dame, et le quatrième était donc place du Vieux Temple. Donc ils ont gardé le nom de la place. En 1865, un terrain est offert à l'angle de l'actuelle rue Fourier et Hébert par la ville et dans un quartier alors bourgeois et très catholique. Les habitants du quartier, soutenus par le sculpteur Irois, dont le domicile se situe tout proche, l'actuel musée de la Résistance, organisent des pétitions contre la construction d'un édifice protestant. Pourtant, Irois acceptera plus tard la commande de la décoration du portail de ce temple à l'extérieur. La construction de ce temple est réalisée par l'architecte Eugène-Marie Perronnet, débute en 1687 et se termine en 1873. Il dispose d'une façade simple de style néo-roman, réalisée en ciment franc, sauf le bas du portail qui sont en pierre calcaire. Si vous avez encore quelques minutes, je peux vous dire juste encore deux mots sur ces couvents. Parce que j'ai fait une petite recherche. On parle de tous ces couvents, mais que reste-t-il aujourd'hui de ces couvents? Eh bien, il reste quand même pas mal de choses. Donc, au XVIe, XVIIe siècle, une trentaine de couvents, maisons religieuses s'implantent à Grenoble. Que reste-t-il comme trace aujourd'hui? Premièrement, le couvent des Minimes, rue de Vieux-Temple, fondé en 1646, qui abrite actuellement la salle Olivier Messiaen. De nos jours, nous pouvons encore admirer le bel escalier d'honneur avec sa balustrade en pierre, son cloître, sa chapelle qui dispose d'une façade classique de calcaire blanc datant du Xe. Il nous reste l'entrée de la chapelle du couvent Sainte-Ursule. C'est là dans la rue Aucollin. La rue Aucollin, cette petite rue de la rue du Temple qui va vers le musée, n'est-ce pas? Et là, il reste encore l'entrée du couvent. Au-dessus de la porte d'entrée, nous distinguons des traces martelées d'une croix sur un globe. Nous reconnaissons là la croix des Chartreux, bien sûr. Cette porte donne accès à une grande salle, qui est maintenant une salle de concert, soutenue par 8 piliers ornés de chapiteaux corinthiens. Lors de la transformation de ce couvent en caserne en 1685, son mobilier fut vendu aux enchères. Sa chaire se trouve dans le temple protestant de Mainz et sa porte, chose peu connue, orne la propriété Hébert d'Atranche, avenue du Grésivaudan. C'est-à-dire quand on a une avenue du Grésivaudan derrière le musée Hébert, il y a une magnifique porte, double porte en bois, c'est celle du couvent. Elle est toujours là, pas très bien entretenue, mais elle est toujours là. Le couvent Sainte-Marie d'en bas, qui fut construit en 1638, rue Trécloître, par des visitandines. Il nous reste la chapelle d'origine transformée en théâtre du même nom. Sa remarquable façade est percée d'un portail avec des colonnes doriques jumelées, deux pot-à-feu, un antique en forme de tombeau sur le haut, surmonté d'une gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Rue Voltaire, tout proche, existe toujours la chapelle de l'Adoration des pénitents, érigée en 1657. Elle est malheureusement souvent fermée. Place Saint-Clair, une petite niche dans laquelle se trouve une modeste statue Saint-Clair à l'angle de la rue Alphand et de la place Saint-Clair. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette petite statue qui est bien cachée. Nous rappelle l'emplacement du couvent des Claristes édifié en ce lieu en 1625. Une croix de ce couvent a été faite en 1629, composée de cristal de roche et argent, qui fut transformée en 1655 en reliquaire par l'orfèvre grenoblois Pierre Penon, contient une épine de la couronne du Christ. Elle se trouve de nos jours au musée de l'Évêché, ancien musée de l'Évêché. Quand vous rentrez au musée de l'Évêché, sur la gauche, vous avez une salle avec une crosse de l'évêque, que sais-je, et là, on la trouve là-bas. Elle est magnifique, absolument magnifique. On trouve encore le couvent Saint-Cécile de Bernadine, fondé en 1625, rue Servant, qui a été admirablement restauré par l'éditeur Glénat, après avoir été un cinéma puis un théâtre du Rio. Il est ouvert en ce moment pour les visites. Le couvent des Dominicains du XVIe siècle, rue Félix de la Chasse, a complètement disparu. Son église comptait 17 tableaux, retraçant la vue du Christ, peints par les frères dominicains Jean-Paul André, entre 1684 et 1686. Ces tableaux furent répartis en 1815 dans d'autres églises de la ville. Donc, vous pouvez les retrouver. Il y en a 5 qui se trouvent dans le cœur de l'église Saint-Louis, au fond là-bas. 2 dans la nef de l'église Saint-Hugues, qui a été restaurée tout récemment, l'église Saint-Hugues. Si vous n'avez pas vu la restauration, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et 4 dans la collégiale Saint-André. Le couvent des Jésuites, actuel lycée Stendhal, fut construit dans ce qui est nommé à l'époque le quartier de Bonne, en référence à l'Élière. En 1634, se trouvaient là des jardins et des Jésuites acquirent pour y construire leur couvent. En 1664, il construit la chapelle dont la façade de baroque, toujours présente, témoigne de la splendeur du bâtiment de 1673. Le Jésuite Bonfa et ses élèves réalisent la célèbre horloge solaire. Cette exceptionnelle horloge est toujours visible. Et il nous reste le couvent fondé en 1618 par Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal sur les hauteurs de Sainte-Marie-d'en-Haut, dans la splendide chapelle, est le plus bel exemple de l'art baroque de l'Isère. Mais là, nous ne sommes plus au cœur du centre ancien de notre ville. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.